Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Exactement, midi, une minute, vous êtes à l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV, Antonine Niacarini, comme à l'habitude, qui va nous faire son caucus dans quelques instants. Un caucus format spécial pour la première partie du caucus, parce qu'on a invité l'ami Lambert Drainville, qui normalement, les mercredis, fait une chronique aux alentours de 13h05-13h10. On y a dit, viens donc joindre Antonine, parce que, hey, boy, ça bouge les sondages!
Ouais, c'est comme un party de sondages.
Ouais, exactement. Donc, on va faire interagir nos deux cracks de la politique provinciale ensemble.
Politique québécoise, Jeff.
Politique québécoise, c'est vrai, car nous sommes une nation. Tu me reprends toujours. Mais je ne sais pas pourquoi je dis toujours politique provinciale.
Ben, c'est normal.
Parce que je suis politique fédérale, tout simplement.
Ben oui, il y a plein de monde qui dit ça, mais moi, je suis la police de la nation. Alors,
voilà. Il y a la police du français. Et il y a la police de la nation avec Antonine Niacarini. J'adore ça. Pascal CV, comment ça va?
Ça va très bien. J'espère cool. Que vous aussi.
Bien sûr. Moi, j'adore des journées comme ça, remplies d'actualités, de rebondissements. Et je disais à ma blonde hier comment j'adore ma vie routinière de faire de la radio, faire une sieste à l'eau de gym, passer du temps avec les miens après. Good check vibes check. Only. Yes! Pascal, on perd pas de temps. On n'a pas le choix, on vient de le dire. Il y a des nouveaux sondages qui sont sortis. C'est pas l'avantage du Parti québécois, c'est un parti libéral qui gagne en popularité. Est-ce que tu peux nous résumer le tout?
Oui, on se dirige vers un duel serré. On en reparlera dans quelques instants, mais là, on est à 31% dans les intentions de vote pour le Parti québécois, puis suivi de près par le Parti libéral qui semble se remonter là, avec Charles Milliard. Est-ce seulement Charles Milliard? Là est la question. Mais il est à 30%. Alors, c'est une montée de 4% pour le PLQ depuis le dernier coup de sonde. Ça peut toujours changer. Hein? Ce sont des sondages, mais quand même, voici le pouls. Et là-dedans, ce que je peux ajouter, c'est que pour le PQ, là, on persiste et signe. Il y aura une consultation pour faire du Québec un pays. On est revenu là-dessus aussi ce matin. L'Italie a autorisé l'extradition de Dave Picturmel, le grand chef de la Blood Family Mafia. Donc, on va pouvoir ramener le jeune Caïd ici le 2 mars. Première étape pour ramener au Canada, c'est ce qu'on disait. Mais c'est toujours le criminel le plus attendu, tiens, au pays depuis très longtemps. Alors, oui, on a rendu du jugement et on va pouvoir le ramener à la maison, peut-être pour plaire à sa mère un peu moins à lui, j'ai l'impression. Et les Canadiens coincés au Moyen-Orient, il y a un nombre limité de sièges qui sont réservés par Ottawa à bord des vols commerciaux pour les ramener depuis Beyrouth. Ça fait beaucoup réagir. Qui on va mettre dans ces vols-là? Qui on va asseoir dans les sièges? Mais il y a un bon nombre de Canadiens puis de résidents permanents qui ont inscrit leur présence au Moyen-Orient et qui veulent revenir. Tout ça dans les pays du Golfe. Ça dépasse désormais le plateau des 103 000 personnes. Et je lisais dans les dernières 20 minutes, là. T'sais, Dubaï, qui était un paradis en termes de sécurité, qui fait partie de ces pays-là. Maintenant, peut-être que son visage aura changé et ça surprend tout le monde.
On va en parler tout à l'heure avec Christine Normandin, leader du Bloc québécois aux alentours de 13h15, sur est-ce que le Canada prend les bons gestes, fait les bons gestes pour justement rapatrier le plus de gens possible.
Et clin d'œil sur le prix de l'essence, on va en jaser avec un dossier complet un peu plus tard, mais oui, ça augmente.
Oui, exactement, ça a augmenté de 10 à 15 sous dans la région de Québec. Pascal, tu nous as préparé un excellent dossier là-dessus. Il y a des stations-service qui ont manqué d'essence hier dans le coin de Beauport. C'était sur les spotted Beauport de ce monde. Donc, on est en pleine crise, comme lors de la COVID. 418-971-1021 pour interagir avec nous en studio. BLVD.fm, c'est les meilleurs moments qui s'y retrouvent. Également, c'est notre web radio BLVD 101, disponible sur App Store, Google Play Store. C'est l'application que tu dois télécharger pour nous écouter partout sur la planète. Twitch.tv/BLVD/FM. Viens nous voir, on n'est pas sorteux, on est en studio. Et abonnez-vous à notre page YouTube, car les podcasts s'y retrouvent et le caucus avec Antonine Niacarini également, qui s'y retrouve à chaque jour. D'ailleurs, on passe immédiatement au...
Le caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonine Niacarini vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Caucus spécial aujourd'hui, car c'est un caucus avec Antonine Niacarini, Lambert Drainville pour la première partie. Pascal vient de nous faire un résumé parfait pour ce qui est des sondages. Le PQ était à 39% au mois de décembre, selon Léger. au plus fort... au plus fort du scandale des Brownies.
Exact.
Et là, ils sont maintenant 31%. Le PLQ à 30%. Avant de passer à des extraits des différents chefs que j'ai, je vais vous demander, Antonine et Lambert, une première analyse de ces résultats-là. Antonine, je commence avec toi, les femmes d'abord. Comment tu analyses les résultats de ce sondage-là?
Bien, moi, ce que je retiens de ce léger, c'est que ça bouge. Donc, on peut refaire des sondages à tous les mois, je pense, dans les 3 prochains mois et avoir, à mon avis, là, un portrait qui va être différent. Pourquoi ça bouge? Parce que, effectivement, quand le PQ était très haut dans les sondages avant Noël, ben, c'est que les autres partis n'allaient pas bien. Donc, tu avais une CAQ avec François Legault très usé. Il avait essayé beaucoup, beaucoup de choses. Ça n'a pas levé. Du côté du PLQ, ben, on était vraiment dans les gros scandales avec les Brownies, la crise avec Pablo Rodriguez. Et même QS, ça n'allait pas très bien. Hein. Je rappelle quand même que Vincent Marsal est parti avec quand même pas mal de fracas, parler contre son parti. Finalement, le PQ a profité un peu du malheur des autres. Là, il y a des choses qui se sont replacées. Donc, le Parti libéral a un nouveau chef. C'est sûr que ça change un peu la dynamique. Même si on ne le connaît pas, même si on ne l'entend pas, même si on ne sait même pas c'est quoi son programme, sa vision, ça fait déjà bouger un peu l'aiguille. Et la CAQ est en course à la chefferie. Donc, ce sondage-là, il va falloir le regarder sur une tendance un peu plus longue. Il ne faut pas penser là, que ça s'est coulé dans le béton.
En effet, Lambert Drainville, tu en penses quoi?
J'en pense que c'est tout un boulet ce qui est en train de se passer sur la scène internationale pour le Parti québécois. Eux, ils avaient réussi à vraiment rallier là, t'sais, à ce que tous les gens qui sont déçus de la CAQ se rallient derrière eux. On l'a vu, ça fait au-dessus de 2 ans qu'ils sont en mesure de faire ça, que ce soit dans Terrebonne, que ce soit dans Jean Talon, dans les différentes élections partielles, on a clairement vu ça. Et là, Trump, les tarifs, rajoute à ça là, la plus récente guerre au Moyen-Orient, ça a un effet très, très difficile pour l'appui à la souveraineté, évidemment, qui est à son plus bas. Écoute, depuis le référendum de 1995, c'est quand même pas rien. Donc tout ça combiné évidemment à l'effet de récence et à l'arrivée de Charles Milliard qui non effectivement n'a pas été exhaustif sur le contenu de ses propositions, mais on s'entend que déjà il semble plus en contrôle, il semble plus en selle que l'impression que nous avait donné Pablo Rodriguez en arrivant en poste. Fait que tu combines tout ça puis ça donne le résultat d'aujourd'hui. Et on pourra rentrer dans le détail un petit peu plus tard, mais c'est particulièrement les populations les plus âgées qui font bouger la balance. Et ce n'est pas surprenant, évidemment, que quand on vit une situation d'instabilité telle qu'on la connaît aujourd'hui, ce sont généralement les 55+ qui sont les premiers à avoir froid dans le dos. Et c'est grandement suivant tout ça que c'est eux, au fond, qui font sérieusement bouger la balance dans le sondage d'aujourd'hui.
À retourner au bercail libéral. Je vous fais entendre les 3 chefs des principaux partis, c'est-à-dire Paul Saint-Pierre, Plamondon, Charles Milliard et Christine Fréchette. Christine Fréchette ou Bernard Drainville, mais c'est Christine Fréchette là, qui était en entrevue à LCN ce matin. Donc, on écoute Paul Saint-Pierre, Plamondon en premier lieu, où il mentionne à Mario Dumont, « Au minute, Monsieur Dumont, je suis pas si à terre que ça. » Vous oubliez une donnée importante.
Non, parce qu'il y a des chiffres que vous avez omis. Lorsqu'on regarde chez les francophones, c'est 39% pour le Parti québécois contre 19% pour les libéraux, 17% pour la CAQ. Donc, la hausse dont vous parlez, elle provient beaucoup des allophones et anglophones qui votent à, tenez-vous bien, 65% pour le Parti libéral du Québec. Et ça, malgré le fait que l'UPAC est toujours en train d'enquêter. On sait que l'UPAC, quand elle enquête, elle recherche des activités criminelles. Donc, si on se réfère au test de Chicoutimi il n'y a pas si longtemps, le Parti québécois a obtenu 45% et le Parti libéral 9%.
Le seul problème avec ça, Lambert, c'est qu'on s'en va plus vers un minoritaire qu'un majoritaire, malgré le fait qu'on score bien aux francophones.
Oui, puis ça sera intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont jouer avec tout ça. La réalité, c'est qu'ils sont un peu pris dans un étau, Jeff. On en a déjà parlé, toi puis moi, ensemble. L'alternative, c'est quoi là, pour eux? Là? L'alternative, c'est quoi? C'est de mettre le frein, c'est de repousser le référendum dans un deuxième mandat, c'est de reculer sur une promesse forte que Paul Saint-Pierre Plamondon tenait alors que les gens ne savaient même pas c'était qui ce gars-là et qu'il a continué de tenir jusqu'au plus haut des sondages pendant 2 ans. Puis là, qu'est-ce que tu veux? Ils n'ont aucun contrôle sur tout ce qui se passe. C'est probablement la conjoncture, la pire conjoncture qui aurait pu arriver pour eux autres. Alors, bien honnêtement, je me mets dans les souliers d'un stratège péquiste et c'est vraiment, vraiment pas évident leur situation. Ils ne peuvent, bien honnêtement, ça, c'est mon avis, que se boucher le nez et essayer d'être le plus lucide possible sur la situation en espérant que cette conjoncture-là change, en espérant de se rendre jusqu'à l'élection. Avec, disons, ce boulet-là, en espérant que ce boulet-là les tire le moins possible au fond de la mer et que la conjoncture change au plus vite, que les choses se calment et éventuellement, ben, il y aura un après Donald Trump et il y aura un jugement sur la loi 21 et il y aura le recensement national où on observera probablement un recul spectaculaire du français. Fait que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans leur situation présentement que de s'accrocher. Évidemment, Charles Milliard, je le trouve beaucoup plus fringant, beaucoup plus rassurant que Pablo Rodriguez, comme je disais en ouverture.
C'est sûr que pour Paul Saint-Pierre, Plamondon, d'incarner quelque chose de rassurant, incarner la confiance, c'est plus difficile parce que le projet politique du PQ, c'est un changement drastique, alors qu'on peut avoir une soif de stabilité, alors que le monde nous semble très, très instable. Mais en même temps, il y a toujours quelque chose. Tu sais, là, on dit que c'est la pire conjoncture. C'est sûr qu'elle est assez particulière, mais il y a eu des crises économiques, il y a eu toutes sortes de choses qui... Tu sais, quand on est contre la souveraineté, il y a toujours une bonne raison, là, qu'elle soit économique, culturelle, il y a toujours quelque chose. Donc, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, s'il devait commencer à reculer, bien là, l'élément de confiance qu'il a, parce qu'il inspire confiance, pas par son projet, mais parce qu'il a dégagé depuis le début, c'est-à-dire quelqu'un qui assume ses idées, qui dit ce qu'il pense, qui est très, très intègre, il a montré une grande intégrité. Des fois, il peut être un peu moins rassurant dans ses sautes d'humeur, mais ça, c'est un autre...
À plat ventrice,
mais d'acuité.
Vacuité intellectuelle.
Mais, cela dit, s'il devait reculer plus que ce qu'il a fait. Donc moi, si j'étais stratège péquiste en ce moment, je dirais, on continue de marteler la ligne suivante. On va être responsable, on ne va pas se garrocher là-dedans, tête baissée. On est conscient de ce qui se passe. Vos anxiétés sont valides, chers Québécois. On comprend, on va être responsable, on aura un bon gouvernement. Et un gouvernement majoritaire du PQ aura 4 ans pour voir c'est quoi le meilleur moment. Trump ne sera pas là pour toujours, blablabla. Bla, bla. Ils ne peuvent pas faire autre chose.
Comme il a fait après Chicoutimi, dans le fond.
Bien, qu'ils maintiennent cette ligne-là, moi, ce serait mon conseil si j'étais à l'interne.
On écoute Charles Milliard en entrevue sur les ondes d'LCN à Québec Matin.
Une donnée qui est intéressante, c'est que 74 % des Québécois estiment que ça va mal au Québec, puis 72 % veulent du renouveau. Alors, je pense que c'est un jugement qui est assez sans appel sur la coalition Avenir Québec. Maintenant, ça va être aux Québécois de choisir qui incarne mieux ce renouveau-là. Moi, je suis nouveau en politique, effectivement, mais je ne suis pas nouveau dans le secteur de l'économie, de la santé, de l'éducation. Alors, je vais faire valoir ça dans les prochaines semaines. Mais évidemment, bâtir une notoriété, c'est un défi, mais c'est une opportunité aussi. Je pense que c'est plus facile de se faire connaître que de demander à quelqu'un de changer d'opinion sur moi. Alors, je vais continuer de travailler.
Je suis tellement d'accord avec ceci, Antonine, la fin de son intervention. Puis je pense que c'est ce qui explique que la CAQ, que ce soit Bernard Drinville ou Christine Fréchette, on est entre 13 et 15
%. Oui, parce qu'en politique, l'effet de nouveauté, ça a toujours un impact qui est positif ou à peu près. Il faut montrer qu'on est capable d'incarner un changement. Puis c'est un cycle politique qui est normal, OK? Il y a comme un effet de nouveauté. Après ça, il y a une lune de miel. Après ça, il y a l'usure du pouvoir. Puis les gens ont envie d'avoir autre chose de nouveau. Mm-hmm. Ce sont des cycles naturels. Puis c'est vrai qu'une fois que quelqu'un a une opinion négative de toi, c'est assez rare que quelqu'un t'aime pas puis il va se mettre à t'aimer, alors que c'est pas rare du tout.
François Legault est un bel exemple.
C'est un bel exemple. C'est sûr que quand on est méconnu, bien, là, les gens peuvent imaginer un peu n'importe quoi. Donc, en ce moment, Charles Milliard, c'est un grand mystère pour la plupart des gens. Personne ne sait qui. Puis en plus, on n'a aucune idée c'est quoi son projet politique. Honnêtement, peux-tu me nommer? Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Il parle de PME. Ah bon, tout le monde est pour ça, les PME. Là,
il a martelé le Parti libéral et le Parti de l'économie et de la gestion saine des finances publiques. Je pense que c'est la ligne qu'il faut qu'il y ait. Êtes-vous d'accord avec moi, Antonine Lambert?
Oui, mais tu sais, mais encore. On ne sait pas concrètement. Puis c'est quoi ta position sur la laïcité, la langue française,
l'économie,
l'immigration?
La gestion des finances publiques.
Ben c'est ça. Mais le diable sera dans les détails. Et je pense qu'il y a des gens qui vont se mettre à moins l'aimer. C'est naturel.
Ben oui.
Quand ils vont avoir des précisions. Parce que pour l'instant, tu projettes ce que tu veux. C'est comme la boîte mystère, là, pour l'instant. Mm-hmm.
Lambert, qu'est-ce que tu en penses des commentaires de Charles Milliard? Puis est-ce que le Parti libéral a des chances de redescendre plus on va connaître Charles Milliard?
Bien, c'est sûr. Comme dit Antonine, c'est cyclique. Tout le monde passe à travers cette espèce de cycle politique-là et le temps va faire son œuvre et que ce soit plus tôt ou plus tard, tout le monde passe au travers. Mais l'effet de récence, il est bien réel. Tu le vois avec Charles Milliard, puis tu le vois avec Christine Fréchette, tu sais, qui, par rapport à Bernard Drainville, représente beaucoup plus la nouveauté au sens où les Québécois la connaissaient moins. Bernard est en politique depuis très, très longtemps. Et ça fait en sorte qu'il est perdant à ce titre-là par rapport à Mme Fréchette, qui a un potentiel de croissance beaucoup plus grand que lui. Charles Milliard, moi, je pense que son plan de match, il est très facile, tu sais, puis je me mets dans la peau d'un stratège libéral, là. Présentement, on a une situation où ce que les gens ne veulent pas d'un référendum, malgré que ce soit le Parti québécois qui ait réussi, comme je disais tantôt, à rallier le sentiment anti-CAQ, ne veulent pas d'un référendum, donc ne veulent pas du PQ, ne veulent pas, excuse-moi, ne veulent pas du référendum,
donc,
ne veulent potentiellement...
Par rapport à ça, Lambert, lorsqu'il dit « Je suis le seul et unique chauffeur de l'autobus du non », toi, tu continues avec cette ligne-là?
Pas tellement, non. Quand je dis qu'il y avait un plan de match plus évident, je veux dire, il va continuer avec cette ligne-là, mais je pense pas que c'est à son avantage et je pense qu'il le sait qu'à un moment donné, c'est un peu vide de contenu là, que de simplement dire, ben votez pas oui parce que.
Mais ça
non,
marche. Mais ça marche. Ça a tout le temps marché. C'est ça qui est choquant un peu quand tu regardes le Parti libéral. Si tu fais pas d'erreur, que t'es pas trop mauvais, que les gens ont peur d'un référendum puis que tu dis emploi-économie, crime, t'as des bonnes chances de gagner.
Hey, regardez, je fais Charles Milliard, OK? Avez-vous peur d'un référendum?
Oui! Oui!
Est-ce que les libéraux, c'est le parti de l'économie?
Oui! Oui!
Est-ce qu'on gère sainement les finances publiques?
Bof!
Votez pour moi!
Ouais, c'est ça. Il faut quand même se rappeler, tabarouette, qu'il y a trois mois de cela, on était pognés dans les affaires de brownies, de financement un peu weird.
Je le sais, on a tout oublié ça. Il y a de la corruption.
Ouais, ça va revenir, ça va revenir.
D'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon a lancé un petit jab là-dessus dans dans l'extrait que j'ai fait jouer, dans le sens que, hey, oubliez pas que l'UPAC est là-dedans, puis l'UPAC, c'est criminel. Ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas le choix d'essayer de ramener ça, Paul Saint-Pierre Plamondon, Lambert.
Ah, puis ça va revenir de toute façon. Le résultat, les enquêtes vont tomber une après l'autre, puis il va devoir se dépatouiller avec ça. Je trouve que parfois, les Québécois ne font pas beaucoup honneur aux slogans qu'on a sur nos plaques d'immatriculation. Mais quand je disais que son plan de match était plutôt évident, moi, c'est que justement, tu sais, la porte est grande ouverte. Les gens ne veulent pas de souveraineté, les gens veulent plus de la CAQ. Fait que là, la porte est grande ouverte pour lui. Il va juste, puis là, effectivement, le diable sera dans les détails, comme Antonine disait, mais. Ça lui prend pas grand-chose. Déjà, tu le remarques, il martèle beaucoup le nationalisme, il martèle beaucoup Robert Bourassa, Jean Lesage. Il va lui falloir 2-3 propositions sur la langue et sur les enjeux identitaires qui vont un peu plus loin que ce que le parti, que comment le Parti libéral s'est positionné dans les dernières années sur ces enjeux-là pour convaincre les Québécois qu'effectivement, il est plus nationaliste que ses prédécesseurs chefs du Parti libéral.
Bon point.
Puis pour moi, ça prendra pas plus que ça. Et M. Milliard, si tu veux mon avis, Jeff, sera une très, très, très grande menace pour une victoire. Là. On parle pas juste pour faire descendre le Parti québécois. Pour une victoire en 2026, moi, je pense que son plan de match, il est le plus facile, le plus simple, le plus évident de tous les chefs de parti qui vont être en lice en octobre.
On écoute Christine Fréchette en entrevue avec Mario Dumont.
On est encore dans une course à la chefferie, hein, à la coalition Avenir Québec. Puis je vois que les appuis que j'ai pour ma candidature vont croissant. Alors moi, ça me donne confiance. Je sais que les Québécois ont un lien de confiance à rebâtir avec la coalition, qu'ils ont soif de changement et moi, j'incarne le changement. Donc je demeure très, très positive et optimiste.
Antonine, est-ce qu'elle incarne vraiment le changement?
Bien, ça dépend à quoi tu la compares. Par rapport à un Charles Milliard ou un Paul Saint-Pierre Plamondon, beaucoup moins, parce que t'es la CAQ. Tu peux pas te sauver de ça. Mais en même temps, c'est sûr que si tu compares les chiffres dans le sondage sur entre Bernard Drainville et elle, bien, elle l'incarne plus que Bernard Drainville. Donc, elle, en ce moment, sa priorité, c'est de gagner la course. Donc, elle veut marteler ce message-là à l'interne. Et il faut quand même dire que c'est une chute un peu spectaculaire depuis le dernier léger pour Christine Fréchette, parce que bien que les intentions de vote à l'interne pour les membres de la CAQ, oui, elle est en avance et tout ça, mais il y avait des projections très intéressantes de sièges où on voyait qu'elle allait en chercher beaucoup plus, en fait.
Ben, elle allait en chercher 28.
Puis Bernard Drainville, 0.
Mais là, Bernard Drainville à 13 % elle à 15. Fait que ça s'essouffle rapidement, Christine Fréchette.
Donc, sa grande avance pour l'élection générale a fondu comme neige au soleil. Exactement. Donc, ça démontre tout le défi de la CAQ. Parce que moi, j'ai l'impression que cette course-là, ben, premièrement, là, tout le monde est tanné d'en entendre parler.
Oui.
Donc là, c'est en train d'auto-nuire à la CAQ, ça, c'est sûr. De passer une semaine à débattre sur le troisième lien, je pense que ça a rappelé beaucoup aux Québécois que, ah ben oui, hein, c'est la CAQ. T'sais, c'est comme si on s'est dit, ah oui, c'est vrai, ils m'énervent, eux autres. Fait que là, on s'est rappelé un peu de ça, là, comme sur nos plaques d'immatriculation, comme disait Lambert tantôt. Donc, il va y avoir un défi. Mais quand un des deux candidats va gagner la course à la chefferie, il va avoir quelques semaines de session parlementaire pour asseoir un peu son rôle de leader de parti et de premier ministre ou de première ministre. Et là, ça va être vraiment l'occasion de démontrer c'est quoi la CAQ de Christine Fréchette ou c'est quoi la CAQ de Bernard Drainville, et ça va devenir plus clair. Mais pour moi, il n'y a rien de tout ça qui est coulé dans le béton.
Lambert, est-ce que sont foutus Christine Fréchette ou Bernard Drainville dans ce changement-là qu'ils veulent incarner? Et je m'explique, puis je vais faire un comparatif avec le fédéral. Au fédéral, il y avait énormément de votes anti-Pierre Poilievre, donc Mark Carney a vraiment représenté le changement dans un parti qui était au pouvoir depuis 10 ans. Mais là, à la CAQ, il n'y a pas vraiment cet ennemi-là. T'es Paul Saint-Pierre, Plamondon n'est pas un ennemi, puis Charles Milliard non plus. Donc, ça va être difficile pour le futur chef de la CAQ. Je me trompe-tu?
Ah, absolument. Puis moi, on en a déjà parlé, Jeff, de la dynamique Mark Carney. Là. Moi, quand on parle de Mark Carney, puis là, j'entendais des collègues caquistes, d'anciens collègues caquistes me dire faut trouver notre Mark Carney, puis les libéraux, la même affaire juste avant, faut trouver notre Mark Carney. Mark Carney, c'est une donnée aberrante dans l'histoire de la politique canadienne. Là. C'est le profil absolument parfait, le CV long comme le bras, dans un moment de géopolitique qui est absolument inédit dans l'histoire récente.
Ben oui.
Pour arrêter d'essayer de chercher le Mark Carney, il n'y en a pas. Là, t'sais. Ni Christine Fréchette, ni Bernard Drainville n'a le curriculum vitae de Mark Carney et la prestance de Mark Carney et la dynamique qui va leur permettre de les propulser par-dessus. Bien honnêtement, moi, ce qui me fascine dans le sondage d'aujourd'hui, c'est le... T'sais, bon, on peut parler de l'un ou l'autre. Bien honnêtement, je ne veux pas dire qu'ils sont morts là, en octobre, là, parce que tu n'es jamais mort en politique, puis ça peut changer bien vite, puis un sondage n'est qu'une capture d'écran à un moment donné dans le temps. Mais tu as 43 % des gens qui disent se foutre éperdument de cette course-là. On parle quand même d'une course qui va déterminer qui sera là ou le prochain premier ministre du Québec. Là.
C'est dire à quel point la population en a soupé de la CAQ.
Exact, exact. Puis ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est réconciliable. Là. Je ne sais pas dans quelle mesure, que ce soit Bernard Drainville ou que ce soit Christine Fréchette, l'écoute des Québécois va revenir. Et c'est ça qui a coulé François Legault, c'est que les Québécois ne l'écoutaient plus. Et pour l'instant, il n'y a aucun signe qui nous permette de croire que cette écoute-là va revenir des Québécois envers la coalition Avenir Québec. Moi, je pense qu'on se dirige beaucoup plus dans une perspective de que restera-t-il de la CAQ en octobre? Que restera-t-il de ce parti-là qui avait obtenu un score record en 2022? Est-ce qu'ils auront, ne serait-ce que le statut de parti officiel? Et sinon, est-ce qu'on pourrait pas assister à une union nationale 2.0 comme on l'a déjà vu au cours de l'histoire du Québec? Il faut se rappeler que c'est un parti qui regroupe plusieurs franges de différents partis différents, dont la seule et unique colle qui tenait tout ce beau monde-là ensemble, c'était M. Legault, le fondateur du parti. Et là, que ce soit François, que ce soit Bernard Drainville ou Christine Fréchette qui gagnent, on ne sait pas non plus quelles vont être les répercussions de ça. T'sais, imagine une victoire de Bernard Drainville à la chefferie, des retours comme ça, alors qu'il est le grand négligé dans cette course-là, ça s'est déjà vu. Mais là, tu as une trentaine de ses collègues, dont l'essentiel du Conseil des ministres.
Si on dit on veut pas te voir, c'est ça. On veut pas te voir, on veut Christine Fréchette. Hey, rapidement, chacun, en 30 secondes. Moi, pour moi, le PCQ à 15 % doit continuer à se concentrer. Capitale nationale, Chaudière-Appalaches, pour faire rentrer le maximum de députés et se créer une crédibilité après ça à l'Assemblée nationale. Puis du côté de QS, faut arrêter de rêver que Zoran Mandani existe comme Mark Carney. C'est une aberration qui est arrivée à New York, ça n'arrivera plus. Êtes-vous d'accord avec moi?
Oui, puis non. Pour le PCQ, je pense que oui, de faire rentrer des députés Québec, Chaudière-Appalaches, c'est une priorité absolue. Il ne faut pas trop s'éparpiller. Mais Mauricie, Saguenay, tu sais, pour construire pour l'avenir, puis que les gens aient envie de se présenter aux prochaines élections, je mettrais quand même un petit peu d'énergie si j'étais Éric Duhaime.
Lambert?
Ben, je vais répondre sur Québec solidaire. Tu sais, comme j'adore parler de Québec solidaire.
Ben oui!
C'est Zoran Mamdani, effectivement. Ben, écoute, c'est quand même une lumière au bout du tunnel pour eux s'ils veulent s'en inspirer. Moi, je pense que ça commence d'abord avant tout par être conséquent. Il y a tellement d'enjeux dans les derniers mois dont on a parlé, où ils ont manqué de logique dans leur façon de prendre position, que ce soit le transport en commun, que ce soit la grève des transports en commun à Montréal, que ce soit, c'était quoi récemment, là, c'était l'histoire d'Alexandre Boulris dans Rosemont.
Exactement.
Tu as une règle que tu mets, mais là, tu l'enlèves dès qu'il y a un gars qui fait un job. Tu sais, ce genre d'affaires-là, il faut qu'ils arrêtent de faire parler d'eux pour des histoires qui ont, tu sais, qui n'ont aucune logique et qui ne touchent en aucun cas les préoccupations présentes des Québécois.
T'as entièrement raison. Lambert Drinville, merci d'avoir participé à cet échange-là avec Antonine Iaccarini. Honnêtement, c'était super intéressant. On a plein de commentaires qui sont entrés par texto. Merci beaucoup!
À refaire. J'adore Antonine. Antonine, je te salue puis toute la gang.
Salutations!
Salut!
Le midi, on en jase. À Boulevard Saint-Denis.
Antonin Iaccarini, on continue le caucus avec Mark Carney qui, après avoir dit « Let's go, Donald, bombarde l'Iran », a été un petit peu plus tiède hier.
Nous adoptons cette position contre-cœur parce que le conflit actuel est un autre exemple à l'échec de l'ordre international.
Traitez-moi de gars qui veut faire du saccage dans le monde entier, mais moi, quand je vois l'Iran qui a financé le Hezbollah et plein de groupes terroristes, ça me dérange pas pantoute que Donald aille sortir les bombes puis fasse le ménage.
Ouais, j'aimerais être aussi catégorique que toi, parce que c'est le fun quand c'est oui, non, noir, blanc, on aime ça. Mais c'est sûr que c'est un mauvais choix pour les présidents et premiers ministres des pays de l'Occident, là, parce que premièrement, l'inquiétude, c'est que M. Trump, il respecte pas la constitution de son pays. Puis ça, peut-être qu'on peut se dire, ah, ça nous touche pas, mais il y a quelque chose d'inquiétant en termes de dérive démocratique, et c'est notre voisin.
Je suis très d'accord avec toi.
L'autre élément, c'est que des fois, on aurait envie, tu sais, on a raison, mais les résultats vont-ils nous donner raison? Je m'explique. Tu sais, moi, par exemple, Vladimir Poutine qui attaque l'Ukraine, dans mes fantasmes les plus fous, je me dis, j'aurais le goût qu'on se batte contre lui. Mais tu sais que tu vas embraser une région qui va avoir une escalade, etc., plus tu penses aux conséquences. L'Iran, c'est pas la Russie, on s'entend. C'est un régime qui est quand même affaibli. On peut faire des frappes aériennes, on n'est pas obligé de s'embourber dans un conflit qui va durer des années nécessairement. Et il n'y a personne qui est très enthousiaste à l'idée d'appuyer, de défendre la théocratie iranienne. Ça, là-dessus, on est 100% d'accord. Moi, je trouvais que la ligne de Carney cette semaine, elle était correcte. C'est-à-dire, oui, on appuie l'opération qui a eu lieu. Puis après ça, tu peux ne pas démontrer beaucoup plus d'enthousiasme.
Mm-hmm. Mais pourquoi il revenait en arrière?
Bien, à contre-cœur et tout ça, je me disais, c'était pas nécessaire de reculer à ce point-là.
C'est ça, hein?
Puis tu sais, je veux dire, là, tu dis une chose et ton contraire. J'appuie, mais ça me tente pas. Tu sais, c'est... Je
l'ai trouvé maladroit dans sa sortie.
J'aime le café, mais avec dédain. Je bois pas d'alcool, mais sauf cette bière-là que je bois à regret. Tu sais, c'est comme très ouais. Pas clair comme message. Est-ce que tu peux quand même, comme premier ministre, dire on a des préoccupations? Tu sais, par exemple, de dire, nous, on appuie l'opération, mais c'est sûr qu'on a des préoccupations pour la suite des choses, pour le droit international. On va être très attentif. On veut, notre objectif, c'est qu'il y ait des escalades par la suite. Je trouvais que son choix de mots était ordinaire, on va dire ça comme ça. M. Carney doit choisir ses combats avec Donald Trump. On ne peut pas toujours être en train de contredire les États-Unis.
Ça, c'est
non
clair.
Plus.
Ça, je suis tellement d'accord avec toi. Je vérifie, puis on en parlera après la pause. Christine Fréchette vient d'annoncer, annonce de Christine Fréchette concernant sa vision pour le milieu de l'éducation. Donc, on regardera s'il y a une conférence de presse par rapport à
ça. Oui, en fait, Christine Fréchette annonce trois mesures pour l'éducation, notamment de stabiliser les budgets. Elle veut que les budgets soient plus réguliers. Elle veut faire des partenariats public-privé pour construire les écoles également. La troisième m'échappe, là, mais c'est des belles annonces, mais tu sais, c'est rien qui va changer le cours de la campagne.
Non, c'est ça. Public-privé, t'en penses quoi? Yannick Marceau, ce matin, disait que ça n'a pas d'allure. Crime, voyons donc, les terrains qu'on a puis les bâtisses, ça prend valeur. Faut pas être locataire, faut être propriétaire. T'en penses quoi, toi, rapidement?
Moi, je pense que ça dépend
pour
des projets.
Troisième, c'est-tu le fait de protéger les élèves, entre autres, sur les règles qui vont être au service des élèves, entre autres, le protecteur du citoyen. Il y avait comme une rumeur que c'était autour de ça.
En tout cas, elle veut protéger les budgets pour s'assurer que les services aux élèves soient jamais coupés.
Ouais, pour les restrictions budgétaires.
C'était la même que la première, mais oui. Donc, moi, ce que je pense intéressant avec cette annonce-là pour Christine Fréchette, route, la question des partenariats publics-privés, j'y reviens, c'est qu'elle va sur le terrain de Bernard Drainville, en fait, parce que c'est un ancien ministre de l'Éducation.
C'est vrai.
Il y a beaucoup de ses accomplissements qui étaient pendant qu'il était ministre de l'Éducation. Donc, elle veut montrer qu'elle a aussi une vision pour l'éducation. Puis montrer un peu de contenu aussi, même si ça ne soulève pas les foules, ces propositions-là, bien... On a l'impression des fois qu'il faut comme candidat que tu aies apporté certaines nouvelles idées. Pour les partenariats publics-privés, moi, je trouve que c'est du cas par cas. Je pense que, de manière plus générale, il faut revoir la manière dont on fait des projets parce qu'on est lent, ça coûte cher, on le sait. Puis des fois, ça passe par des partenariats avec le privé. Mais des fois, non. Donc, ça dépend. Mm-hmm. Peut-être que les écoles, effectivement, ça pourrait être une bonne idée, en tout cas, de l'évaluer. Tu sais, pourquoi on ne fait pas des scénarios? Quand on voit qu'on a un projet, c'est pas obligé d'être un « one size fits all », là.
Je suis très, très, très d'accord avec toi. Antonine Iaccarini, on t'écoute dans le retour.
Oui.
Tout à l'heure.
Je serai tout l'après-midi à partir de 14h.
Je te salue pour le reste de la semaine parce que demain, je suis en congé.
Ben oui, tu nous
abandonnes.
Vendredi
abandonne. Également. Tu seras avec Pascal CV et avec Mathias Turcotte.
Entre bonnes mains.
Je te souhaite un bon caucus. Tu vas être en excellente main, évidemment. Et nous, on se fera se reparler lundi prochain. Après la courte pause, dans un instant, Boulevard 102, à l'émission On en jase. Pascal, tu nous as préparé un bon dossier sur l'essence. Raconte-nous ça un petit peu.
Ben, je voyais avec les tensions mondiales actuelles que tout le monde parlait du prix de l'essence. C'est souvent ce qui arrive, donc personne n'était surpris de ça. Mais quand j'ai vu la petite panique citoyenne qui s'est vraiment sentie de façon tangible sur les réseaux sociaux, c'est là où je me suis mis à lire quelques messages. Puis là, t'avais du monde qui disait « Hey, il n'y a plus d'essence à Beauport, dans tel secteur. Ils sortent avant même qu'on prenne le gars dans l'essence, qu'on le mette dans notre auto pour dire « Hey, arrêtez, on ne peut pas. Les prix commencent à monter. » Qu'est-ce qui se passait? Bien, ce matin, j'ai fait 10 à 15 appels dans les stations de différents secteurs. Fait qu'on va évaluer dans quel secteur les gens étaient plus paniqués, mais aussi qu'est-ce qu'on on doit tirer de tout ça.
Excellent. On aura également Lani Dufour, nouvelle chroniqueuse dans l'émission Nangeas, directrice adjointe des affaires gouvernementales chez Catapulte et chroniqueuse pour Informe Affaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sera avec nous en studio. On va également parler du prix de l'essence. Comment les politiciens vont reprendre ça, le prix de l'essence? Et surtout, comment la hausse du coût de l'essence va venir affecter les commerces et surtout les commerces dans les régions. Donc, on parle de tout cela dans un instant à Boulevard 102, l'émission d'En Jase.